Radio Vatican, Français Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. De légères améliorations de la santé du pape ont été confirmées par les médecins. L'annonce a été faite par la salle de presse mardi soir. Plus de détails dans quelques instants. Le pape, qui a aussi participé aux exercices spirituels de carême qui se poursuivent jusqu'au vendredi à l'intention de toute la curie romaine. Nous en parlerons dans l'actualité de l'église qui nous conduira aussi au Tchad pour le message de carême de l'archevêque de N'Djamena. L'actualité sociale et politique sur le continent nous conduira notamment au Mali, au Nigeria. Ce sera avant de suivre le cardinal Ouédraogo, archevêque émérite de Ouagadougou au Burkina Faso, qui donne un sens particulier à l'anniversaire du pontificat du pape François, Memento, qui sera célébré ce jeudi 13 mars, alors que le Saint-Père se trouve toujours hospitalisé. Nous conclurons cette édition avec Mgr Mathieu Madega, évêque de Mouya au Gabon, qui nous parle des espoirs et des attentes des élections qui se profilent dans leur pays, tout en nous rendant compte des changements obtenus par la transition en cours. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, Français Afrique, Fabrice Baguendekere.
La situation clinique du pape reste stable avec de légères améliorations dans un cadre qui reste complexe. C'est qu'a annoncé la salle de presse du Saint-Siège mercredi matin. François a poursuivi les thérapies prescrites et a continué l'oxygénation à haut débit durant la journée. Toujours mercredi, les médecins devraient livrer des informations supplémentaires. Ils ont levé le pronostic réservé lundi 10 mars, considérant que le tableau clinique était encore complexe. Par ailleurs, le matin et l'après-midi du mercredi, François a suivi les exercices spirituels de la curie romaine par liaison vidéo avec la salle Paul VI, se consacrant à la prière et à la méditation, comme l'exige le temps de recueillement. Les exercices spirituels de carême se poursuivent donc au Vatican à l'intention des cardinaux et évêques et tous les collaborateurs de la curie romaine. Renaître, mais pour une vie, pas immortelle mais éternelle, c'est la clé de lecture des prédications de mercredi illustrées par le dialogue entre Jésus et Nicodème et le paradoxe d'un Dieu qui sauve par la croix décrit par l'évangéliste Marc. Les détails de Christian Losambe.
Le chemin du salut se manifeste comme une renaissance spirituelle, une renaissance pour la vie, non pas immortelle mais éternelle. Telle a été la pointe de la prédication du père Capucin Pasolini mercredi, illustrée dans l'évangile de Jean à travers le dialogue entre Jésus et Nicodème. Jésus affirme que pour voir le royaume de Dieu, il faut renaître d'en haut, un concept qui déconcerte Nicodème et qui rappelle la nécessité d'un changement profond et radical. Cette transformation n'est pas simple et suscite souvent une crainte, car elle exige d'abandonner des certitudes et des schémas consolidés, a affirmé le prédicateur de la maison pontificale dans sa 6e méditation donnée de la matinée du mercredi. Beaucoup craignent le changement et cherchent à s'agripper à des expériences passées, mais la véritable renaissance implique de se fier à Dieu et de se laisser conduire vers des horizons inexplorés, a poursuivi le père Capucin, déclarant que cette renaissance n'est pas une illusion, mais une réalité accessible à qui se laisse transformer par l'Esprit en vivant dès à présent la promesse de l'éternité. Et dans la soirée du mercredi, le père Pasolini a souligné dans sa 7e méditation que notre époque a généré une illusion d'immortalité, alimentée par le progrès et la prospérité, qui nous conduit à ignorer les limites de la condition humaine. Même l'Église, parfois, a-t-il ajouté, peine à se redimensionner pour offrir un témoignage crédible du royaume de Dieu. Ce refoulement de la mort se manifeste par l'incapacité de vivre sereinement dans l'attente et par l'obsession de l'hyperactivité et de la présence constante sur les nombreux fronts où la réalité nous presse, a affirmé le prêtre Capucin. Ainsi a-t-il rappelé, le Christ n'a pas éliminé la mort, mais il a traversé pour nous montrer qu'elle peut être habitée et transfigurée.
Et en raison de ces exercices spirituels en cours, le texte de la catéchèse de l'audience générale de mercredi n'a pas cette fois-ci été publié aujourd'hui, car l'audience en soi n'est pas prévue pendant ce déroulement. Dans son message de carême 2025 adressé aux fidèles de son archidiocèse, Mgr Edmond Djitanga, archevêque de N'Djamena au Tchad, a relevé plusieurs mots persistants dans l'église famille de Dieu de cette circonscription ecclésiastique, notamment le refus de certains fidèles de célébrer leur mariage sacramentel, la fréquentation des marabouts, les mauvais traitements que subissent les veufs, veuves et les orphelins en cas de décès du conjoint. Le prélat rappelle que Carême est d'abord une marche d'espérance de libération. La correspondance d'Edouard Takadji.
Pour l'archevêque métropolitain d'Ndjamena, Mgr Edmodji Tangar, le carême est un temps de combat spirituel, personnel et communautaire et reste un temps favorable pour combattre les maux qui fragilisent et empêchent les chrétiens de s'épanouir dans leur vie familiale ou en église famille de Dieu.
J'invite les chrétiens qui vivent en situation irrégulière dans leur ménage, concubinage, refus de célébration du mariage sacramentel ou dans leur vie chrétienne, fréquentation des marabouts, des devins, ou des sectes, et à mettre de l'ordre dans leur vie chrétienne. Sans le savoir, ils s'éloignent petit à petit de la vie de la communauté chrétienne. Sans rejet de la foi, ils finissent par être indifférents aux exigences de leur baptême.
Les mauvais traitements que subissent les veufs, veuves et orphelins en cas de décès du conjoint ne sont pas du reste.
Les biens du défunt sont séquestrés par des parents, parfois chrétiens, qui s'en approprient au nom de la famille et excluent les vrais membres de la famille éprouvée. C'est une injustice grave qu'il faut corriger.
Pour bien vivre pleinement l'esprit de l'année jubilaire, l'ordinaire du lieu demande aux fidèles de l'église famille de Dieu qui est en Ndjamena de faire des efforts pour que règne un peu plus de justice et de paix dans les relations familiales et sociales. Que ceux qui sont en conflit cherchent les chemins de réconciliation, a souligné l'archevêque métropolitain de Ndjamena. Edouard Takadji, Ndjamena pour Radio Vatican.
Place à présent à l'actualité sociopolitique sur les continents. Libération de Daouda Magassa, un proche de l'influent imam Mahmoud Diko, critique au régime au pouvoir au Mali. Nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale de la libération de notre camarade, a indiqué dans un communiqué la commission de soutien de l'imam Diko, dont Magassa est membre. Figure tutélaire d'un mouvement de contestation qui a précédé la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, Magassa avait été enlevé le 5 février par des hommes armés non identifiés selon ses proches. « Je suis libre. Pour le moment, je ne souhaite pas en dire plus », a déclaré Magassa après sa libération. Crainte d'une reprise des violences au nord du Nigeria malgré la signature d'un accord de paix. Après des mois de négociations, le gouvernement de l'État de Kaduna a signé un accord de paix avec les gangs criminels en novembre 2024 afin de mettre fin aux violences auxquelles n'ont pu remédier les déploiements militaires. Mais, affirme-t-il, la crainte d'une reprise des violences persiste. Kaduna est l'un des nombreux États du nord-ouest et du centre du Nigeria qui sont terrorisés depuis des années par des gangs criminels, localement appelés bandits, qui procèdent à des enlèvements massifs contre rançon, notamment dans des écoles, et à des pillages et des tueries dans les villages. Le Maroc a lancé une campagne de vaccination contre la rougeole après une résurgence alarmante que les autorités attribuent principalement à la montée de la désinformation sur les vaccins. Plus de 25 000 personnes ont été infectées et plus de 120 décès ont été enregistrés depuis octobre 2023 selon Mouad Mrabé, coordinateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique. L'opération qui a permis de vérifier l'état vaccinal de 10 millions d'enfants de moins de 18 temps a débuté fin octobre pour tenter d'endiguer une maladie qui avait pourtant quasiment disparu au Maroc, affirme Mrabé. Ces dernières semaines, le nombre d'infections est en baisse constante, affirment les autorités marocaines qui ont toutefois décidé de prolonger la campagne jusqu'au 28 mars. La médiation angolaise a annoncé mardi des prochaines négociations directes entre le M23 et Kinshasa. Après une visite à Luanda du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui refusait jusqu'ici de discuter avec ce groupe armé, maître de larges portions de territoire dans l'est du pays. Nous prenons acte des initiatives annoncées par la présidence angolaise et attendons voir la mise en œuvre de cette démarche de la médiation angolaise, a simplement réagi sur X le porte-parole du président Tshisekedi, sans assumer ce message. Ce jeudi 13 mars marque le 12e anniversaire de l'élection du pape François au siège de Pierre. Un anniversaire qui intervient alors que le Saint-Père est hospitalisé depuis un mois à la polyclinique Gemelli de Rome. Pour le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque émérite de Ouagadougou au Burkina Faso, cet anniversaire du pontificat est une occasion d'action de grâce à Dieu pour le service que François continue à rendre à l'Église et au monde, malgré ses souffrances physiques. Le cardinal Ouédraogo.
Le 13 mars 2025 coïncide avec le 12e anniversaire du pontificat du pape François, alors qu'il est malade et hospitalisé. Tout d'abord, c'est vraiment une action de grâce au Seigneur, maître de la moisson, qui choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut, pour le service de son Église, de son peuple. Le Seigneur a permis son élection, voilà 12 ans, pour le service de l'Église et du monde entier. Action de grâce également pour sa mission pétrinienne, apostolique, au service de l'Église et au service de la société de notre temps, de par le monde.
Il y a de cela un mois que le pape est hospitalisé pour cause de pneumonie bilatérale à l'hôpital Gemelli de Rome. Que vous inspire cet anniversaire de son pontificat alors que le Saint-Père est souffrant et malade?
Que nous inspire cet anniversaire de pape malade? Un homme de son âge, 88 ans, n'est pas épargné de la maladie. À la suite de son maître, il connaît la souffrance, mais rien n'est impossible à Dieu. Pas même permettre de retrouver la santé du corps et même de l'âme. En cette année du jubilé de la rédemption, le thème choisi par le pape lui-même, pèlerin d'espérance, nous sommes donc dans l'espérance qu'il va guérir. La salle de presse du Saint-Siège nous confie que l'état clinique du Saint-Père continue de s'améliorer. Alors, persévérons dans la prière et dans la confiance au Seigneur, le maître de la vie. Des chrétiens et même des non-chrétiens prient pour la santé du pape. Daigne le Seigneur nous exaucer et lui permettre de retrouver la santé éprouvée et reprendre son service apostolique.
Comment interprétez-vous cette solidarité, cette proximité autour du pape malade?
Comme nous le savons tous, lorsqu'un membre d'un corps est malade, tout le corps est malade. Toute l'Église catholique est concernée et préoccupée par l'état de santé du Saint-Père. Une solidarité agissante s'est manifestée dans toutes les communautés chrétiennes de tous les pays. Par la communauté, c'est vraiment une communion de prières, tant individuelle que communautaire. À Saint-Pierre, tous les soirs, il y a une prière pour sa santé. Et cela se retrouve aussi dans tous les pays. Cela est bien plus important que les spéculations, quelquefois fantaisistes, sur l'état de santé du pape. Nous pouvons simplement exprimer notre espérance, et même dans la souffrance, il assume son pontificat. Il est à l'hôpital, il a assumé et il continue d'assumer son pontificat, même dans la souffrance. La souffrance est rédemptrice. Il a fallu la souffrance de la croix pour nous sauver. Le pape Jean-Paul II, il a terminé assez difficilement, mais il offrait constamment ses souffrances pour l'Église et pour le monde qu'il a aimé et servi. Il en est de même pour ce pape. Nous souhaitons simplement que le Seigneur étende sa main sur lui pour lui donner la santé du corps et de l'âme pour la gloire de son nom, pour le bien de l'Église et pour le bien de notre monde.
Le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque émérite de Ouagadougou au Burkina Faso, interrogé par Françoise Niamien. Après la plébiscite de la nouvelle constitution, le Gabon est entré dans la dernière étape de la transition initiée depuis 2023 avec l'annonce du calendrier de l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. Le choix devra se faire entre 4 candidats sur les 23 prétendants selon la liste officielle publiée dimanche 9 mars. Ce scrutin marquera un retour vers le fonctionnement normal des institutions étatiques, un espoir attendu par les Gabonais depuis les débuts de la transition. C'est cela qu'affirme Mgr Mathieu Madega, évêque de Mouya.
La transition, comme nous le disions au départ, c'est une période transitoire et qui ne doit pas perdurer d'une certaine manière. C'est vrai qu'elle peut être brève ou longue, mais organiser ces élections, c'est retourner au fonctionnement ordinaire des institutions. Donc c'est déjà cela. Et cela nous permet de sortir justement de ce que l'on appelle transition. Rien que le fait de sortir de la transition, ça crée bien sûr une espèce d'espoir, mais avec beaucoup d'attente. Et comme vous le savez, ni le président Brice Clotaire-Oligui Nguema, ni aucun autre président au monde, ni les autres candidats ne peuvent prétendre avoir la baguette magique pour changer les choses en un seul jour. Mais il faudra l'engagement, la détermination, quelle que soit la personne élue, que ce soit le général ou une autre personne, mais que cette élection puisse appeler tous les Gabonaises et Gabonaises à prendre leur destin en main, à se savoir important devant Dieu et devant les hommes, et qu'ils jouent bien leur partition. Parce que, quelle que soit la personne élue, y compris le général, ça ne résout pas le problème si toute la population ne se met pas debout, si toute la population ne se met pas au travail avec discipline et abnégation. Cette élection suscite une espérance dans la mesure où nous sortons de la transition pour une autre, comme nous le disons au Gabon, pour un essor vers la félicité.
Contrairement aux autres gouvernements révolutionnaires qui ont vu jour en Afrique ces dernières années, notamment les trois États de l'Alliance du Sahel, le Gabon n'a pas effectué de grandes ruptures, soit-il dans la continuité des institutions nationales que dans la coopération bilatérale. Quel a été finalement le pas effectué?
J'ai envie de dire bien malin, qui le sait, Dieu seul le sait. Il faut toutefois noter la situation des pays du Sahel est différente de la situation du Gabon du point de vue du départ. Nos frères du Sahel étaient confrontés aux situations que je ne veux même plus vous rappeler ici. Et donc, dans la lutte contre ces situations, surtout, avant tout et d'abord, il fallait se resserrer les coudes pour pouvoir faire face à cette chose que, justement, les aides, d'où qu'elles viennent, n'avaient pas pu résoudre, même si pour le moment, ce n'est pas résolu complètement. Or, nous, au Gabon, nous ne partions pas de cette prémisse-là. Nous partions d'une situation, entre guillemets, sans les éléments du Sahel, mais avec un désir de félicité, un désir de réforme, un désir d'un mieux-être, d'un mieux vivre ensemble. Donc voilà pourquoi la situation est différente. Quant au rapport avec ce que l'on appelle les anciens colonisateurs, la chose est la suivante. Il est peut-être bon, aussi bien pour le Gabon que pour nos frères du Nord, que nous nous rendions compte que les jours changent et ne se ressemblent pas, et nous sommes en 2025. Et en 2025, il y a des gens qui ont acquis une certaine maturité de penser, de vivre et de faire, et que nous sommes désormais face à un monde totalement, pour ne pas dire complètement ouvert. Et les exemples et des développements, des manières de faire, de vivre et de coopérer viennent de partout. Et donc, bien malheureux, j'ai envie de dire, et qui souffrira d'un nombrilisme qui ne fera pas grandir. Donc le Gabon est appelé à grandir, même dans ses relations avec tous les partenaires. Bien sûr, et cette croissance, quelquefois, demande à ce que l'on s'asseye, demande à ce que l'on se remette quelquefois en question. Et nous, comme chrétiens, vous savez, au début de chaque messe, nous disons « Reconnaissons nos pécheurs devant Dieu et devant les hommes ». C'est-à-dire que nous faisons un examen de conscience. Nous le faisons à chaque messe. Et je crois que dans les rapports aussi entre États, il est bon que les États fassent aussi un examen de conscience, mais serein, c'est-à-dire pas nécessairement tapageur ou tapageux. Bien sûr, cela dépend des contextes. Et donc, dans cet examen de conscience, je crois que les rapports doivent toujours et davantage s'améliorer. Disons qu'il n'y a pas de rapport qu'on a mis au congélateur. Ben, sinon, ce serait des rapports morts. Donc, le Gabon est appelé à jouer aussi sa partition dans le concert des nations en prenant sa place et en revisitant ses rapports avec ses frères et sœurs, les humains, pour qu'ensemble on puisse grandir. Pour me résumer, si croissance il y a inévitablement changement, il y a inévitablement révision de certaines choses.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Fabrice Baguendekere qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi.